Levé de rideau est au Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. Venez nombreux et nous écoutons acteurs, actrices, metteurs en scène. Vive le théâtre! Jean-Pierre Brouillot, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes à Avignon, à la Maison de la Parole, pendant le festival Off, à 14h45 tous les jours, sauf le jeudi. Et vous faites un monologue qui s'appelle 12, un monologue d'une heure. Alors, pourquoi 12?
Eh bien, 12 parce que c'est un texte qui est écrit entièrement en alexandrin.
Mmh.
Voilà, d'où le titre.
12 pieds.
Et donc, l'alexandrin est à la fois le support du spectacle, puisque le texte est en alexandrin, et c'est aussi le sujet, puisque le cœur du spectacle, c'est que j'essaye d'imaginer ce que serait l'existence si tout le monde, tout le temps, toute la journée, s'exprimait en alexandrin, y compris pour commander une baguette de pain, ou pour quitter son mari, ou pour insulter l'automobiliste à côté. Enfin voilà, tous les actes de la vie, que ce soit les actes anodins et peu graves, ou les actes plus importants, j'essaye de les imaginer
En alexandrin.
En alexandrin, avec l'idée que ça mettrait sans doute plus de douceur et de poésie et de drôlerie aussi, peut-être, dans l'existence.
Dans l'existence. Alors, pourquoi cet amour des alexandrins? C'est votre formation, c'est une formation classique, c'est vos études littéraires, vos études d'acteur, enfin,
ça remonte à l'enfance. Bon, je suis né dans une famille assez plutôt littéraire. C'est vrai que quand j'étais enfant, ado, jeune adulte encore, je lisais énormément de poésie, je dévorais de la poésie, je lisais presque que ça, et essentiellement de la poésie classique, beaucoup de la poésie du 19e, donc beaucoup d'alexandrin. Et l'alexandrin est un rythme qui m'a toujours bercé, que j'ai toujours aimé, et ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose en alexandrin. Sauf que c'est un peu ambitieux et compliqué, parce qu'il y a quand même eu quelques précédents assez glorieux, des grands poètes, des dramaturges qui ont écrit en alexandrin. Donc il y a forcément la peur de faire la même chose en moins bien et même en beaucoup moins bien. Donc j'ai mis très longtemps à trouver un peu l'angle d'attaque, et fini par le trouver avec cette idée d'écrire non pas une pièce à proprement parler, mais plutôt un monologue. Et avec l'idée que l'alexandrin ne serait pas simplement le moyen d'expression, mais serait aussi le sujet. Donc, d'imaginer cette existence de la naissance à la mort, en gros, entièrement en alexandrin. Et quand j'ai eu cette idée-là, ce projet qui était un peu en germe comme ça depuis des années, a pris naissance.
Alors, ce n'est pas étonnant que ça passe à la Maison de la Parole, hein, puisque c'est toute une façon de s'exprimer. La question que je me pose, c'est comment vous arrivez à enchaîner, puisque je n'ai pas encore vu le spectacle, comment vous arrivez à enchaîner des situations aussi banales que la baguette de pain et la rupture du couple? Comment vous avez construit votre monologue?
C'est un peu le reflet de la vie, hein. C'est très banal ce que je vais dire, mais enfin, la vie, c'est des petites choses et des grandes choses, des petites joies, des grandes joies, des petites douleurs et des grandes douleurs, qui finalement se côtoient en permanence, hein. Si vous avez quitté votre conjoint, vous allez quand même acheter une baguette de pain. Finalement, l'enchaînement s'est fait de façon assez
naturelle. Fluide, en fait, voilà.
Voilà, essayer d'imaginer effectivement différentes situations, anonymes ou graves, vraiment de la naissance à la mort, hein, du bébé qui naît et qui commence à parler en alexandrin jusqu'à notre mort où on meurt en alexandrin.
Ah, d'accord.
Et entre deux, tout ce qui peut se passer dans tous les domaines. Donc, il y a des petites phases de transition, il y a des petites phases musicales aussi. C'est un spectacle dans lequel il y a un peu de guitare, il y a des passages de guitare enregistrés, puis moi je joue un peu de guitare, qui fait aussi parfois une forme de transition entre les différentes scènes. Donc c'est vrai que j'ai essayé de faire quand même un spectacle qui soit construit.
Oui. Oui, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait, j'allais dire, une sauce, mais c'est un petit peu ça, quoi. Il faut qu'on se laisse bercer, qu'on se laisse prendre aussi par les paroles. Et pour vous, d'écrire en alexandrin, c'était donc évident. Ça ne vous demande pas un effort particulier.
Évident, c'est beaucoup dire, mais en fait, quand on a ce rythme dans la tête,
ouais,
si compliqué que ça d'écrire en alexandrin, ce qui est plus compliqué, ce qui m'a pris beaucoup de temps, ce n'est pas tant le premier jet ou les premières idées... C'est surtout la relecture et la réécriture, parce que c'est assez facile, je dirais, d'écrire des alexandrins médiocres. C'est-à-dire, vraiment, alors, compliqué, mais c'est pas très beau. Et en revanche, j'ai vraiment essayé, c'est ça qui a été très long, une fois écrit, de reprendre vraiment chaque vers, chaque rime pour essayer de faire en sorte, je ne sais pas si j'ai réussi, mais que chaque vers soit soigné, que chaque rime soit soignée. Donc c'est plus les réécritures qui ont pris effectivement beaucoup de temps et pour essayer aussi que le spectacle soit drôle, parce que c'est un spectacle qui est plutôt
Humoristique,
drôle,
plutôt
des
drôle.
émotions
Et
intenses.
il vous
Mais.
arrive dans la vie quotidienne de parler en alexandrin pour voir la réaction de la personne en face de vous?
Ça peut m'arriver, oui, ça peut m'arriver en famille ou entre amis de commencer à parler un peu en alexandrin. Et il y a toujours un côté drôle dans le fait, effectivement, de désacraliser l'alexandrin qui peut avoir un côté un peu solennel et dramatique et tragique et de l'utiliser pour, effectivement, demander le sel ou commander un café. Ça crée un effet humoristique. Donc j'ai essayé justement de faire un spectacle plutôt à tonalité
Bien sûr.
humoristique en mettant cette chose un peu solennelle qu'est l'alexandrin au service de la vie de tous les jours.
Alors, si je vous demande de nous dire au revoir et rendez-vous à Avignon, vous nous dites ça en alexandrin comme ça ou il faut venir vous voir?
Eh bien, venez me voir surtout à Avignon. Nous ferons la route ensemble, nous serons bons compagnons et je vous attends donc. Maison de la parole, venez tous avec moi, soyez fous, soyez folles.
Merci
Voilà.
Jean-Pierre Brouillot et rendez-vous donc à la
Merci
Maison
Hugo.
de la Parole. Au revoir.
Au revoir, merci.
Bonjour Owen Doyle.
Bonjour, Sylviane.
Alors, vous jouez au Théâtre de l'Adresse pendant le Off d'Avignon, l'éducation de Rita à 11h45. Tous les jours sauf le mardi. C'est la première fois que vous jouez cette pièce à Avignon avec votre partenaire Maxime Lyon-Windisch. Dans quel état d'esprit êtes-vous pendant ce festival?
Oh, ça va, on est très excités de présenter cette pièce. Elle est tellement merveilleuse comme œuvre et c'est une nouvelle traduction. On a hâte que le public puisse découvrir ça. À Paris, on a eu pas mal de dates à Paris, mais on débarque à Avignon avec beaucoup d'excitation.
Alors
Et
vous,
je suis, en tant que metteur en scène, bien sûr, il y a un peu nerveux, mais
bien sûr,
ça va pas
on
mal de
va
soi.
aller rôder maintenant. Donc voilà.
Et voilà.
Alors c'est un texte de Willie Russell. C'est une comédie.
Oui.
Il se passe quoi dans l'éducation de Rita? Qu'est-ce qu'il faut lui apprendre à Rita? Et qui lui
Alors,
apprend?
elle, c'est une femme. Oui, enfin, bah, c'est une. Elle apprend ce qu'elle cherche, c'est d'avoir plus de choix dans sa vie. Donc, c'est pas un cours de littérature. Elle veut savoir tout. Façon de parler à elle. Elle a 29 ans. Elle se sent enfermée, coiffeuse à Liverpool, enfermée dans son milieu social. Son mari attend qu'elle ait des enfants et pas plus. Elle veut vraiment se libérer de ses contraintes, et elle dit, je vais passer par les cours du soir, l'université ouverte, et elle tombe sur un professeur qui est un peu désabusé, décroché, pas simplement alcoolo, et il se trouve que c'est exactement le prof qu'il lui fallait à elle, parce que c'est quelqu'un qui va pas la juger, qui va l'accompagner dans sa démarche, pour que ses horizons s'ouvrent, qu'elle ait plus de choix,
Alors
que la
vous êtes.
culture ouvre des choix de vie. C'est pas simple, c'est un parcours comique et sérieux parce que c'est bon,
C'est des
raconter
sujets graves, oui.
les transitions qu'elle fait, mais c'est un parcours d'entraide à la fois compliqué et très drôle parce qu'ils viennent de mondes tellement différents, il se passe à chaque fois des incompréhensions entre eux qui font la partie de la comédie, la transformation de Rita. Un peu sous son propre impulsion, mais lui, le professeur, l'aide malgré lui parce qu'il n'a pas envie qu'elle rentre dans le moule de l'éducation, parce qu'il n'y croit plus, mais en même temps, il est amoureux de littérature. Il sent qu'elle veut vraiment transformer sa vie et les cours de littérature, c'est un axe, c'est l'axe principal qu'elle a choisi.
En fait, vous êtes un peu un Pygmalion ou ça va
Tout à fait.
au-delà?
Alors nous,
Vous
on aime à
tombez
dire un Pygmalion inversé ou un Pygmalion
inversé.
corrigé. Parce que justement, à l'inverse du mythe de Pygmalion ou du Pygmalion de Shaw, où le professeur cherche à façonner l'élève, en fait, il dit, vous êtes
Oui.
merveilleuse comme vous êtes, surtout ne changez pas. je vais vous faire du mal en vous faisant rentrer dans le carcan éducatif. Et elle, c'est elle qui dit, non, 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 je suis là pour ça, je vous demande de me permettre de réussir mes examens, c'est tout ce que je vous demande, donc faites. Et en fait, il fait tout pour l'aider en lui donnant confiance. Elle dit, Yassine, mais pas confiance en moi, je veux avoir confiance.
Et
Et
est-ce qu'il change lui aussi? Parce que dans un échange comme cela, en général, il y a des effets d'aller-retour. Est-ce que
tout à
ce...
fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment le thème de la pièce, un aspect de la pièce, parce qu'il est un peu enfermé, il dit qu'il ne s'aime pas lui-même, il dit qu'il est mauvais prof, il boit trop. Il y a une petite fille qui elle dit, non, je ne cherche pas à vous changer. Et ça, le sujet revient plusieurs fois. En fait, si, elle aimerait bien qu'il change, ça c'est clair, c'est le sous-texte. Lui, il aimerait pas qu'elle change, mais bon, il accepte que c'est son parcours à elle et que, donc il va l'aider. Et donc, il y a une espèce de croisement. Sa transformation, elle va jusqu'au bout. Il faut voir la pièce pour voir comment ça se
Bien
termine.
sûr.
Mais lui, c'est plus difficile. Donc, il y a une complexité, et ça, il fait aussi partie de la comédie, une complexité qu'effectivement, il a besoin de changer, lui. Il le sait très bien.
C'est
Mais
pas
parfois, c'est
facile.
facile et parfois, c'est moins facile de se transformer. Donc, il n'y a pas de propos simpliste dans la pièce.
D'accord. Alors, j'ai vu que ça avait eu un grand succès en Angleterre. La traduction française, qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a changé la pièce ou elle lui a donné un autre aspect? Ou ça se
Alors, comme je
situe à
suis
quelle époque?
tous mes collègues, parce que je suis pas d'origine, je suis pas français, donc je peux pas juger. Tous mes collègues français disent que c'est une excellente traduction, ça rend très bien au niveau du français le texte. Ce qui est important, c'est que c'est une Catherine Marcangeli qui partage son temps professeur d'art d'histoire de l'art américaine et british, qui partage son temps entre Paris et Liverpool. Elle connaît très bien Willie Russell, ils sont assez proches. Donc elle a fait une traduction aussi d'une autre pièce de lui qui s'appelle en français on dit Parti en Grèce. J'oublie le nom de la.
C'est pas grave.
Oui, c'est pas
C'est
grave.
pas grave parce que nous allons de toute façon bientôt se dire au revoir.
Oui. Ben voilà, donc c'est une traduction qui rend très très bien l'esprit de la pièce et qui se joue merveilleusement bien.
Alors, je pense que tout le monde peut apprendre quelque chose sur la vie en société, sur la vie de couple. On peut tous se dire, on va peut-être changer ou pas changer, mais on va évoluer. C'est un peu
Oui,
ça.
tout à fait. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de coup. Eux, ils s'entraident par respect mutuel. Ils sont chacun dans leur couple. Elle est mariée. Lui, il a une compagne. Ça se passe difficilement de part et d'autre. Ce n'est pas une
D'accord.
histoire de couple entre eux.
OK.
Mais effectivement, la vie de couple joue un rôle très important dans la pièce.
Bien sûr. Mais merci beaucoup, Wendell, et
Merci à
puis
vous. Merci.
bon festival et puis à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Bonjour Sarah.
Bonjour Sylviane.
Alors, vous êtes une des deux, comment on va dire, une des deux femmes qui ont décidé de lire, jouer, présenter Madame Bovary en plus drôle et moins long. C'est tout un programme,
Exactement.
tout un
C'est
programme.
un challenge.
Un challenge. Alors moi, je l'ai vu l'an passé, donc je peux dire que c'est un challenge réussi. Ceux qui n'ont jamais lu Madame Bovary jusqu'au bout, et ben là, ils sauront tout de l'histoire de Madame Bovary. Alors vous, Sarah, vous reprenez la pièce aujourd'hui, mais vous connaissez parfaitement Marion et Camille. Camille joue avec vous. Et c'est toutes les
Oui.
deux qui ont écrit cette pièce. Alors vous pouvez, vous connaissez parfaitement, vous l'avez déjà jouée souvent. Pourquoi elles ont écrit ça, Marion et Camille?
Sur une base d'histoire personnelle, quoi, de vécu, hein. Le théâtre, c'est beaucoup ça. Mais elles sont parties. Pourquoi Bovary, elles le disent très clairement
Bien oui.
en introduction au spectacle. Et elles étaient assez traumatisées de l'œuvre initiale, de l'œuvre, oui, connue mondialement quand même, de Flaubert. Et elles ont décidé de se replonger dedans 20 ans plus tard, du coup. Et là, elles l'ont adoré.
Mais
Donc, elles
c'est
se sont...
souvent que des ouvrages qu'on lit à l'école, au lycée, sont pas, nous attirent pas et puis qu'on redécouvre plus tard. Mais elles, elles l'ont fait avec, je dirais, avec génie parce que de façon drôle, de façon dynamique, hein, vous bougez beaucoup tout de même dans la pièce.
Oui, bah, de toute façon, elles ont décidé aussi d'aborder le registre de la comédie, quoi, surtout sur Madame Bovary. C'est quand même pas une histoire super drôle et à la fois une histoire universelle. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dedans. Donc oui, les choix du traitement de l'histoire sur l'absurde, les anachronismes à répétition, les répétitions aussi, justement, qui ponctuent tout le récit. Elles ont choisi de le livrer comme ça pour que les gens puissent sauter dans l'histoire, quoi. Alors, et aussi peut-être se reconnaître, quoi.
Et puis peut-être à la fin, prendre le livre et le lire jusqu'au bout.
C'était un peu l'objectif, de contaminer à la lecture au final. Oui, enfin, c'est ça, de bien créer sûr. De l'engouement et de se dire, de donner envie de le lire, quoi, à la nouvelle génération peut-être, à l'ancienne, à toutes, en fait, ceux qui l'avaient adoré de le relire, ceux qui l'avaient complètement laissé à l'abandon d'y revenir.
C'est
de le remettre entre leurs mains.
Ça a été un grand succès en 2024, donc je pense que ça sera aussi un grand succès en 2025. Ça a tourné beaucoup, donc c'est un spectacle de bouche à oreille qui a fait beaucoup de bruit. Vous qui êtes nouvelle dans le duo, en fait c'est un trio maintenant, c'est Marion, Camille qui joue et vous, Sarah. Comment vous avez abordé le texte? Comment vous avez travaillé? Enfin, ça, c'est énorme comme ce que je vous pose comme question. Vous aimiez...
vrai. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, Sylviane. Et vous... Comment résumer ça?
Vous aimiez Madame Bovary, vous? Vous aimiez Madame Bovary? Vous connaissiez le livre?
Non, figurez-vous que c'était marrant parce que moi, je ne l'avais pas lu.
Oh.
Donc, même pour commencer le travail... j'ai trouvé ça chouette en fait. C'était aussi un autre angle, etc. Bon, après, évidemment, Camille et Marion m'ont guidée sur tout. Hein,
La mise en scène aussi.
Sur la mise en scène, sur ce qu'il y avait aussi à jouer ou à trouver aussi dans le jeu et dans mon jeu, du coup, vu que c'est quand même. Une autre personne, donc l'approche elle est différente et ça c'était important aussi pour elle qu'une autre lecture soit possible, quoi, toujours clownesque mais réaliste. Donc moi j'ai appris, j'ai sauté dedans pieds joints et j'ai tout appris sur le tas de la lire aussi à côté, enfin j'ai tout fait dans le même temps. Et moi aussi, j'aime Madame Bovary. Enfin, en vrai, je m'y suis beaucoup retrouvée.
Et puis, c'est vrai que...
Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais franchement,
je ne dirais rien. Parce que souvent, des gens vous parlent de Madame Bovary, ou je pense aussi au Rouge et le Noir. En fait, ils le connaissent par les films.
Exactement.
Ils ne connaissent pas par les livres. Donc, par la comédie. Je trouve que le titre est très bien trouvé, quoi. Madame Bovary en plus drôle et moins long. Et puis, il y a un « help » au milieu.
Donc oui, exactement.
C'est très humoristique et vous, j'allais dire, vous éclatez en jouant cette pièce. Je vois qu'il n'y a pas de relâche, hein, vous jouez tous les jours. Donc, au Corsin à 11h45, ça dure 1h15. C'est un beau challenge. Vous aimez, quoi. Vous aimez cette vie d'artiste.
Ah, bah oui, hein, c'est choisi. Hein. Si on n'aime pas ça, c'est vrai que.
On ne tient pas.
Exactement, mais à la fois, bon, ça donne des ailes quand même. Là, c'est une chance aussi de la jouer autant, qu'il y ait un public qui réponde au rendez-vous aussi, parce que c'est vraiment le cas. Et ils sont tous, ils viennent nombreux et variés en plus. Il y a vraiment tout le monde qui vient avec curiosité la voir.
Alors, c'est un, j'allais dire pour conclure, c'est un spectacle culturel. Mais dans lequel nous rions. Voilà.
Ah oui, c'était le but. C'était rendre la culture... C'est la rendre accessible, quoi.
Voilà.
De toute manière. Et l'humaniser un petit peu.
Voilà, la désacraliser. Voilà, une Madame Bovary. Merci, Sarah. Et jouez bien pendant le festival. Et félicitations au trio, donc vous, Sarah, Marion et Camille. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je suis par téléphone avec l'actrice Brigitte Deruy et la, comment on va dire, la metteur en scène Geneviève Brett, c'est ça ?
Exactement.
Alors, du spectacle Sur les ailes de l'invisible qui passe au tremplin Salle Molière tous les jours sauf le mercredi à 15h30 et c'est une création. Donc, vous êtes dans la grande excitation de la création théâtrale.
Exactement, exactement. Et là, nous sommes en résidence pour peaufiner notre spectacle.
Alors, vous êtes... Brigitte, vous êtes la metteur en scène, mais...
Non, Brigitte Deruy, c'est l'auteur et celle qui joue.
Et celle qui joue. Alors, c'est compliqué d'être à la fois auteur et comédienne ?
Non, parce que je suis d'abord avant tout comédienne et ensuite j'ai développé vraiment un désir de la poésie et j'écris de la poésie depuis une vingtaine d'années. Et j'ai eu l'envie vraiment soudaine et très impérative de vouloir faire un montage qui parle un peu de notre époque. Et donc cette époque qui est celle qu'on vit, qui est proche du chaos, et qui a besoin de sortir un peu de la matière pour aller vers une spiritualité. Voilà, c'est le grand thème.
Je disais que ça explique, que vous parliez de spiritualité, ça explique l'affiche et le film, le titre, Sur les ailes de l'invisible. C'est ça, c'est ce que l'on cherche.
Alors, c'est un montage à la fois poétique mais aussi musical parce que Mathilde Sterna a composé une bande son qui est magnifique et sur laquelle elle chante trois chansons.
Et elle joue aussi, puisqu'elle est violoncelliste. Donc c'est du direct au violoncelle. Elle accompagne tout ce parcours philosophique et musical pendant une heure.
Et au niveau du décor ou de la lumière, on sait combien dans le spectacle la lumière est importante. Vous créez une ambiance, disons, soft, une ambiance d'intimité.
Une ambiance d'intimité et en même temps de la metteuse en scène. Donc, il y a tout un travail sur la lumière, en effet. Il y a aussi un travail sur la vidéoprojection, puisqu'on projette avec... Donc, il y a une scénographe qui s'appelle Christelle Grévy qui a participé à ce projet et qui a composé des tas de vidéos sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc, il y a des projections de nébuleuses, de planètes, d'étoiles, et en même temps, il y a des projections sur des larmes, sur l'infiniment petit, sur la chaîne d'ADN, sur des chromosomes, sur des tas de choses comme ça qui sont projetées et qui sont mises un peu en opposition.
Donc
sur l'écran. Donc il y a un très grand écran au fond de scène et évidemment il y a tout un travail de jeu de lumière qui est très important aussi.
Vous voulez en fait que le public s'éloigne de la réalité, s'éloigne de la vie quotidienne, fasse un peu un retour sur lui-même,
c'est un questionnement en fait, c'est un questionnement philosophique, poétique et musical qui interroge l'humain.
D'accord. Et c'est tout de même une sorte de défi dans notre société. Vous parliez de chaos, mais on est aussi dans une société qui va très vite. Donc là, vous obligez le spectateur à intérioriser et c'est un beau défi, je trouve.
Oui, on le voit un peu comme ça aussi, mais en même temps, je pense que ça peut être très émouvant et ça peut... Je ne sais pas, entraîner quand même des émotions qui peuvent parler à l'être humain et l'interroger tout
et
du moins.
L'interroge et qui donne de l'espoir.
Oui, je crois.
Aussi.
Oui, de l'espoir, on en a besoin.
C'est là-dessus qu'on est. On en a besoin. Et
oui, alors
vraiment, on cible vraiment sur la beauté, sur l'espoir
et l'amour.
Et l'amour, exact.
Beauté, espoir, amour, bon bah c'est des choses dont on a besoin. Et j'ai vraiment l'impression que vous utilisez donc beaucoup de moyens techniques et la musique, la poésie, la lumière, la vidéo. Vous avez pris beaucoup de plaisir à créer ces ailes de l'invisible.
Oh, du plaisir, bien sûr, on en a tous les jours. Et là, on est en train de peaufiner le tout. Et c'est énormément de plaisir parce que ça porte un message tellement beau, en fait, et justement d'espoir que on a hâte et on essaie de faire le mieux possible pour que le spectateur
Soit
puisse
touché.
soit
Soit
touché,
touché.
soit ému, soit,
Eh ben
soit, soit bah, par différentes émotions, en fait.
merci à vous deux. Je pense qu'on va vraiment être imprégnés et sortir un peu de notre monde réel pendant. Le spectacle dure 1 heure, 1 heure et quart, je ne sais pas
C'est
exactement.
ça, non,
Non, non plus.
une petite heure.
Une petite heure. Eh bien écoutez, rendez-vous pour cette petite heure de poésie, de musique, d'espoir, de beauté, d'amour, comme vous l'avez dit. Merci, au revoir.
Merci à vous. Bonne journée, au revoir.